VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 6 juin 2022. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Les titres pour commencer, au Mali, reprise aux djihadistes des localités d'Anderambukan et de Tadjalalt. Au Nigeria, des hommes armés font un massacre dans une église catholique durant la messe de la Pentecôte. En Guinée, mise en garde de la justice contre toute récupération politique des funérailles aujourd'hui d'un jeune Guinéen tué par balle. RDC, le président Tshisekedi n'a aucun doute sur le soutien du Rwanda aux rebelles du M23, mais souhaite des relations apaisées avec ses voisins. En Ukraine, première frappe russe depuis fin avril contre Kiev dimanche et nouvel avertissement du président russe Vladimir Poutine aux Occidentaux. Ne manquez pas notre page sport avec Élisée Ongpatine ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Les forces armées maliennes et celles de la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger ont repris le contrôle des localités d'Anderambukan et de Tadjalalt. Cette région à la frontière avec le Niger est sous le contrôle du groupe État islamique depuis plusieurs mois. Les détails avec Bagassi Koura.
Selon plusieurs sources, de violents combats opposent depuis plusieurs jours les forces armées maliennes aux combattants du groupe État islamique au Grand Sahara qui contrôlait cette région depuis plusieurs mois. Selon un communiqué de la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger, de violents combats ont eu lieu ce dimanche face à la pression des FAMA et à la milice d'autodéfense Gatia et du MSA. Les combattants islamistes se sont retirés d'Anderambukan et de Tadjalalt. Ces affrontements de ces derniers jours auraient fait au moins 40 morts et 36 blessés au sein du groupe islamiste. Les forces armées maliennes n'ont pas encore communiqué sur ces affrontements. Des milliers de personnes ont fui leur village pour trouver refuge à Menaka et certains, selon les Nations Unies, ont fui vers le Niger voisin.
Au Nigeria, un dimanche sanglant pour les habitants de la ville d'Owo, dans l'état d'Ondo, dans le sud-ouest du pays, où des fidèles chrétiens ont été abattus lors d'un service religieux. Aucun groupe n'a encore revendiqué l'attaque. Le point avec Gilbert Tamba à Abuja.
Les assaillants ont pris pour cible l'église catholique Saint-Francis Xavier dans la ville d'Owo, au moment même où les fidèles se rassemblaient pour la messe du dimanche matin. Ils ont ouvert le feu à l'intérieur de l'église et ont utilisé des explosifs. Le bilan précis de ces carnages n'est pas encore révélé, mais parmi les victimes, il y a de nombreux enfants, selon des témoins, et d'autres fidèles blessés et soignés à l'hôpital de la ville. L'attaque n'a pas encore été revendiquée et le mobile reste à déterminer. Le président Muhammadu Buhari a aussitôt condamné le meurtre odieux des fidèles catholiques. Oluwarotimi Akeredolu, gouverneur de l'État d'Ondo, a écourté son séjour à Abuja où il devait participer à la convention du parti au pouvoir qui doit désigner son candidat à la présidentielle et rentrer dans sa région qui a été jusqu'ici peu touchée par les attaques djihadistes. Il a promis d'engager toutes les ressources disponibles pour traquer et retrouver les assaillants. Gilbert Tamba, Abuja pour VOA Afrique.
Le procureur général de Conakry a promis hier la vérité sur les circonstances de la mort par balle d'un jeune Guinéen. Il a cependant mis en garde contre toute récupération politique de ses funérailles prévues aujourd'hui. Le point avec Michel Joseph.
Tierno Mamadou Diallo, 19 ans, a été tué le 1er juin lors de heurts entre forces de sécurité et manifestants contre la hausse des prix du carburant. Dès le lendemain, le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, a dit que le gouvernement était prêt à mettre tous les moyens nécessaires à la disposition des investigations. Le procureur général de Conakry, Alphonse Charles Wright, a indiqué que les résultats de ces enquêtes seront divulgués aujourd'hui. Cependant, il a mis en garde contre l'appel à la mobilisation du Front national pour la défense de la Constitution, collectif qui a mené la contestation contre le troisième mandat de l'ex-président Condé. En cas de problème, toutes les personnes qui ont appelé à cette marche funèbre seront poursuivies, arrêtées et déférées conformément à la loi. Je n'admettrai jamais, a déclaré Charles Wright, qu'un dossier judiciaire fasse l'objet d'une récupération politique.
Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, évoquant publiquement pour la première fois hier la crise congolo-rwandaise, a affirmé n'avoir aucun doute sur le soutien du Rwanda à une rébellion venue, a-t-il dit, agresser son pays. Mais il a répété son souhait d'entretenir des relations apaisées avec ses voisins. La nouvelle crise provoquée par la résurgence dans l'est de la RDC de l'ancienne rébellion Tutsi du M23 était au menu de ses discussions ce week-end avec son homologue et voisin Denis Sassou Nguesso dans le fief de celui-ci à Oyo, à quelques 400 kilomètres au nord de Brazzaville. Par ailleurs, le roi des Belges, Philippe, entame ce mardi sa première visite officielle en République démocratique du Congo pour relancer le partenariat avec le président Tshisekedi et poursuivre le travail de mémoire sur la période coloniale encore omniprésente dans les esprits. Ce déplacement de 6 jours à l'invitation de M. Tshisekedi a une forte portée symbolique 2 ans après que Philippe a exprimé, dans une lettre au chef de l'État congolais, ses plus profonds regrets pour les blessures de la colonisation, une première historique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
100 jours après le début de l'agression russe contre l'Ukraine, le pape François a de nouveau appelé à la tenue de réelles négociations pour un cessez-le-feu et une solution à ce conflit. Le point avec Eric Manirakidza.
Le pape François a dénoncé l'escalade de plus en plus dangereuse du conflit en Ukraine en marge des célébrations de la Pentecôte. Je renouvelle mon appel aux dirigeants des nations. S'il vous plaît, ne conduisez pas l'humanité à la destruction, a lancé le souverain pontife depuis la fenêtre du palais apostolique devant 25 000 fidèles réunis place Saint-Pierre. Samedi, lors d'une rencontre avec des enfants au Vatican, le pape de 85 ans avait confirmé son désir de se rendre en Ukraine tout en expliquant vouloir attendre le bon moment. Des frappes russes ont visé Kiev hier dimanche à l'aube, les premières depuis fin avril, Vladimir Poutine menaçant de frapper de nouvelles cibles si les Occidentaux fournissent des missiles de longue portée à Kiev. L'Ukraine attend des livraisons de systèmes lance-missiles plus puissants promis par le président américain Joe Biden, en espérant que cela change le rapport de force face à la Russie dans l'Est qui vise à contrôler la région orientale du Donbass.
L'Ukraine a affirmé dimanche avoir repris la moitié de Severodonetsk et progressé dans cette ville clé du Donbass sous le feu intensif des forces russes au moment où le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu sur le front dans cette région pour y soutenir ses soldats. La Corée du Sud et les États-Unis ont tiré 8 missiles balistiques ce lundi en réponse au lancement du même nombre de missiles par la Corée du Nord la veille, a déclaré l'armée sud-coréenne. Elle a ajouté, je cite, « Notre armée condamne avec force la série de provocations par missiles balistiques de la part du Nord et l'exhorte fermement à cesser immédiatement les actes qui accroissent les tensions militaires sur la péninsule. » Fin de citation. Ici aux États-Unis, au moins 6 personnes sont mortes ce week-end au cours de fusillades, alors que les parlementaires américains mènent d'âpres discussions sur une régulation du port d'armes. Le président Joe Biden demande au Congrès de fixer à 21 ans au lieu de 18 l'âge légal pour acheter un fusil d'assaut. Selon un sondage CBS News YouGov, publié dimanche, une majorité d'Américains se disent favorables à un durcissement des règles sur la possession des armes et même à une interdiction pure et simple des armes semi-automatiques. Au Royaume-Uni, la reine Elisabeth II, largement absente de son jubilé de platine en raison de sa santé déclinante, a fait une apparition surprise au balcon du palais de Buckingham dimanche, Dernier jour des célébrations, la monarque de 96 ans, qui a du mal à marcher, est restée à l'écart des principales festivités organisées pour ses 70 ans de règne, une longévité record. La Minute Éco, Eric Manirakidza.
L'inspection générale des finances de la RDC, dans un rapport révélé samedi, pointe de nombreuses irrégularités dans la gestion de la société publique minière Gécamines. L'agence anticorruption indique en particulier ne pas avoir retrouvé la trace de plus de 400 millions de dollars sur un total de quelque 600 millions d'avances sur fiscalité et prêts à l'État. Elle avait lancé il y a plusieurs mois un audit de la société sur la période 2010-2020 et a bouclé son rapport le 31 mai, a indiqué l'hebdomadaire Jeune Afrique. Pour les entreprises américaines, petites ou grandes, gérer les stocks après 2 ans de consommation complètement chamboulée par la pandémie est devenu un exercice délicat. Des livraisons qui arrivent en retard, des produits qui ne trouvent plus preneurs, renforcent une incertitude grandissante sur l'économie. La chaîne d'approvisionnement n'a pas suivi et les entreprises ont pendant des mois dû gérer la pénurie de certains articles ou la congestion dans les ports. Le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz est en train de rappeler près d'un million de véhicules en raison d'un potentiel problème dans le système de frein, a annoncé samedi l'autorité fédérale des transports. Il s'agit d'un modèle datant des années 2004 à 2015. Au total, 993 407 véhicules sont rappelés à travers le monde, dont 70 000 en Allemagne.
Merci Eric. Les sports à présent avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football à la une avec les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations de 2023.
Oui, démarré le mercredi, la première journée s'est poursuivie samedi et début tranquille pour le Sénégal. Victoire 3-1 face au Bénin. Triplé de Sadio Mané qui devient le meilleur buteur de la sélection avec 32 réalisations. L'attaquant de Liverpool, très heureux de dépasser d'une unité le précédent record détenu par Henri Camara.
Je suis tellement content et fier d'être le meilleur buteur parce que c'est pas évident. Il y avait qui hein? C'était Henri. Henri, vous savez, il était mon idole. Il nous a rendu fiers. Il a beaucoup fait pour le Sénégal. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui se focalise trop sur les records, mais après tout, comme je l'ai dit, c'est le football. Les records sont faits à battre. Mais pour moi, c'était pas mon intention. Mon intention, c'est de faire gagner mon équipe et surtout gagner des trophées avec le Sénégal.
Sadio Mané au micro d'Amédine Si, début parfait également du Mali, qui a étrié le Congo-Brazzaville 4-0 pour prendre la tête du groupe G devant la Gambie, vainqueur 1-0 du Soudan du Sud. Et puis, l'Égypte victorieuse 1-0 de la Guinée partage la tête du groupe D avec le Malawi, tombeur 2-1 de l'Éthiopie.
De son côté, le Gabon surprend la RD Congo.
Oui, pourtant privé d'une grande partie de son effectif et arrivé à Kinshasa 3 heures avant le coup d'envoi. Les Gabonais se sont imposés 1-0 sur le terrain des Congolais. Dans l'autre rencontre du groupe I, la Mauritanie a dominé le Soudan 3-0 à Nouakchott. Parmi les autres résultats, notons la belle victoire de l'Algérie 2-0 face à l'Ouganda. Un seul match dans la poule C et nul 1-1 entre la Namibie et le Burundi.
En attendant la fin de la première journée, on jouait hier la seconde journée. Explication, Élisée.
Tout à fait. Dans le groupe E, le Ghana et l'Angola n'ont pas pu enchaîner une seconde victoire puisque accrochés respectivement 1-1 par la Centrafrique et Madagascar. Pareil pour la Tunisie dans la poule J, contraint au nul blanc par le Botswana. À suivre aujourd'hui un seul match, le déplacement de la Libye en Guinée équatoriale. Pour rappel, 48 équipes réparties en 12 groupes prennent part à ces éliminatoires. Les deux premières de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale prévue en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023. Et puis, du basketball pour finir, avec vous Idrissa, le résultat du match numéro 2 de la finale NBA.
Les Warriors, grâce notamment à 29 points de Stephen Curry et une défense acharnée, ont battu 107 à 88 les Celtics pour égaliser à une victoire partout en finale NBA 2022, dimanche à San Francisco. La rencontre numéro 3 aura lieu mercredi à Boston. Pour rappel, la première équipe à 4 victoires sera sacrée championne NBA.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les chefs d'État de la CEDEAO ont tenu samedi à Accra un double sommet avec l'UEMOA. Ils n'ont pas pris de décision sur les transitions au Burkina Faso, au Mali et en Guinée et doivent tenir un autre sommet ordinaire le 3 juillet. Mais selon le communiqué final, Mahamadou Issoufou, l'ancien président du Niger, a été désigné médiateur pour le Burkina et Mohamed Ibn Chambas pour la Guinée. La CEDEAO estime que les durées de transition de 3 ans au Burkina et en Guinée sont longues. Lamine Traoré, notre envoyé spécial à Accra.
Au Jubilee House, le palais présidentiel du Ghana, les deux sommets ont duré au moins 6 heures. Les chefs d'État n'ont pas pu se mettre d'accord. Ils ont décidé de reporter leur décision au prochain sommet ordinaire prévu à Accra dans un mois. L'un des rares chefs d'État à s'exprimer après le sommet, Macky Sall du Sénégal, réagit sur la situation malienne.
On s'achemine vers une rencontre prochaine, le 3 juillet, au sommet ordinaire. Après le sommet de la CEDEAO, le sommet de l'UEMOA a reçu des autorités du Mali et du Burkina, représentant leur État pour nous faire le point sur la situation sécuritaire, économique et financière. Le médiateur a donné un schéma de sortie de crise. Ce schéma, la conférence a pris acte, demande aux autorités maliennes de travailler avec le médiateur d'ici le prochain sommet. En ce moment, on apprécie.
Avec un chronogramme?
Un chronogramme, un mécanisme de suivi.
Le Mali reste donc sous sanction de la CEDEAO jusqu'au prochain sommet. Une grande déception selon ces journalistes qui étaient au sommet d'Accra. Ousmane Diaye, rédacteur en chef central Afrique de TV5 Monde.
C'est la déception des Maliens qui étaient venus avec leur ministre de l'économie et des finances, le ministre des Affaires étrangères. Au Mali, il y avait quand même un immense espoir. Et d'ailleurs, l'administration des douanes au Mali avait commencé à travailler sur l'éventualité d'une levée de l'embargo. Donc c'est une déception très forte. Et ensuite, deuxième chose, ça traduit quand même l'impossibilité des chefs d'État de la sous-région à trouver un accord. Ça en dit long sur les divergences de lignes, sur les divergences de stratégie.
Serge Daniel, journaliste et écrivain, également présent à Accra, pense qu'au prochain sommet, la fumée blanche va se dégager.
Il y aura des délégations au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Pour faire avancer les choses, on a fait quand même 3 semaines, on a encore 4 semaines. C'est vrai que ça va vite, mais je pense que d'ici là, on devrait pouvoir voir la fumée blanche, comme on le dit. Le cas du Mali, c'est quand même quelque chose d'important. J'ai entendu parler de division, de ceci. Les chefs d'État, je pense, veulent prendre ensemble une décision consensuelle. Le bloc dont on a parlé, les anglophones étaient contre la levée des sanctions, les francophones, c'est faux, ce n'est pas vrai. Vous avez des pays comme le Nigeria qui a dit, par exemple, oui, suivant par exemple levant les sanctions sur le Mali, alors que la Gambie était plutôt contre, a soutenu d'autres. Même le Niger, le président Bazoum n'est pas contre la levée des sanctions au Mali.
Les chefs d'État ont décidé de nommer Mahamadou Issoufou, ancien président du Niger, comme médiateur pour le Burkina et Mohamed Ibn Chambas pour la Guinée. Les durées de transition de 3 ans proposées par le Burkina et la Guinée ne font pas satisfaction au sein de la CEDEAO. Le rendez-vous a été pris pour le 3 juillet pour le sommet ordinaire qui risque d'être décisif pour les militaires au pouvoir dans ces 3 pays, au Burkina, au Mali et en Guinée. Lamine Traoré, Accra, VOA Afrique.
À votre avis, Claire Morin-Gibourg avec vous, la CEDEAO a maintenu ses sanctions contre le Mali à l'issue de son sommet à Accra. L'organisation ouest-africaine veut néanmoins continuer le dialogue pour parvenir à une levée graduelle des sanctions. Cependant, les dirigeants ouest-africains étaient divisés sur le Mali car les sanctions accentuent la crise économique et sociale. Que pensez-vous de la décision de la CEDEAO ? Pour participer, laissez-nous vos commentaires et vos coordonnées sur notre page Facebook. Vous pouvez également enregistrer votre message sur notre numéro WhatsApp, plus 1 202 297 60 89. À votre avis, c'est du lundi au vendredi à 18h05, temps universel, sur VOA Afrique.
Au Cameroun, les syndicats des transports de taxis et les associations de consommateurs sont en colère. Les premiers s'insurgent contre les entraves dans leur secteur d'activité. Les seconds contestent l'augmentation des prix de la visite technique des véhicules. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jultap.
9 revendications sont portées par les présidents nationaux des syndicats de chauffeurs professionnels qui organisent un sitting ce lundi devant les services du Premier ministre à Yaoundé.
Que ce soit pratiquement à Douala ou bien à Yaoundé, si on y prend garde, la profession de taxi va mourir au Cameroun.
Colex Ndefosoken est le président du syndicat national des employés du secteur des transports terrestres, Sinester.
Les mototaximens ont carrément envahi le centre urbain, empêchant aux transporteurs urbains par taxi de pouvoir travailler. Pourtant, ils ne payent pas les papiers pour... Et c'est des personnes qui sont même pas, n'ont pas de plaques d'immatriculation. Donc il y a une insécurité criarde dans le secteur qui fait que le marché qui devait nous être réservé, on ne le retrouve plus. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé au Premier ministère le 6 juin pour dire au Premier ministre, permettez-nous de sauver ce secteur d'activité qui est quand même le miroir de la République du Cameroun.
D'autres motifs de la colère des syndicats de chauffeurs de taxi ont trait au transport routier clandestin dans les aéroports, les hôtels et les agences de voyage. L'augmentation de certains produits et services fait aussi grincer les dents. Le président du syndicat Sinester, Colis Defensoken, explique.
L'huile de vidange a carrément augmenté de 40% du prix. Et sans qu'on nous donne trop d'explications.
Les ministères du Travail, du Commerce et des Transports n'ont fait jusqu'ici aucun commentaire sur les griefs des syndicats de transport. Pour leur part, plus d'une quarantaine d'associations des consommateurs contestent les nouveaux prix de la visite technique des véhicules entrés en vigueur depuis le 1er juin. Georges Ngono Edoua, coordonnateur général de la plateforme des associations de consommateurs pour la protection de l'intérêt économique et social du Cameroun.
Si on regarde le fichier des associations de défense des droits de consommateurs, on verra que nous atteignons déjà peut-être une centaine. Et sur ce nombre-là, il n'y a qu'une seule association qui aurait été conviée à ces assises-là. Déjà, on ne nous a pas donné le nom de cette association. Elle peut être créée, elle peut être fictive.
La plateforme des associations de consommateurs entend initier un sitting devant le ministère des Transports pour se faire entendre. Georges Ngono Edoua, coordonnateur général de la dite plateforme.
Il est clairement dit que les voitures sont par chevaux. Mais ce qui est visible et flagrant, c'est que toutes ces voitures, 7 chevaux, 8 chevaux, 9 chevaux, 11 chevaux, sont passées du simple au double, c'est-à-dire de 9 400 à 17 000 les poussières, y compris les taxes. Nous demandons au ministre des Transports de reconvoquer une réunion de crise avec toutes les parties.
Les responsables des centres de visite technique n'ont pas souhaité s'exprimer. L'un d'eux a confié à VOA Afrique, sous anonymat, qu'une concertation est prévue cette semaine à Douala entre leur syndicat et la plateforme des associations. Au ministère des Transports, l'on maintient que les nouveaux prix ont été arrêtés après concertation. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Au Tchad, le président de la transition a déclaré l'urgence alimentaire et nutritionnelle dans le pays et appelé les partenaires à venir en aide aux populations faisant face à la crise alimentaire. André Kodmadjinger, notre correspondant à N'Djamena, a recueilli les réactions de quelques Tchadiens.
Lydie Biasamda, présidente du Parti pour le développement et l'indépendance intégrale et ancienne ministre de l'Agriculture, estime que si les autorités décrètent l'urgence alimentaire, c'est que le système de planification et de coordination de l'agriculture est en panne.
Aujourd'hui, le Tchad dispose environ de 53 magasins qui font à peu près 100 000 tonnes de céréales par an si on les remplit. Mais en réalité, depuis près de 10 ans, ces magasins n'ont point été vraiment remplis. En plus, il se trouve que l'ONASA, qui est l'instrument de prévention qui permet de disposer du stock alimentaire, est une institution surendettée. En 2019, l'ONASA avait déjà 29 000 milliards de dettes. Et donc, c'est ce qui fait que le ministère de l'Agriculture ne peut vraiment pas fonctionner.
Pour Mondué, déclador agro-entrepreneur et président de la coopérative agricole Le Paysan, cette crise est aussi un aveu d'échec de l'ensemble des des politiques agricoles.
Nous ne pouvons pas comprendre qu'un pays qui dispose de ressources enviables puisse tomber dans une crise alimentaire. Peut-être les stratégies adoptées sont inadéquates, soit les stratégies adoptées ne sont pas accompagnées par des moyens de mise en œuvre. Cette déclaration de l'urgence alimentaire ressemble à un appel à l'assistanat en tant que producteur. Cela remet en cause notre vocation qui se dit agro-pastorale.
En dehors du manque de dispositifs de sécurité alimentaire, les autorités n'investissent pas dans le secteur agricole, reconnaît Lydie Biasemda, ancienne ministre de l'Agriculture.
En 68, nous dépensions 18% de nos ressources pour l'armement. Dès que nous avons eu le pétrole, en 2008, nous avons commencé à mettre 50% des rentes pétrolières dans l'armement. Aujourd'hui, l'agriculture du Tchad a besoin des intrants agricoles. En commençant par la semence améliorée qui, dans le contexte des changements climatiques, devrait donner la possibilité d'améliorer les rendements. Entre 2010 et 2022, même les budgets inscrits dans la loi des finances n'est pas décaissé. Il va falloir s'asseoir et faire un plan d'urgence pour le développement de l'agriculture en général.
C'est une interpellation du secteur privé qui doit aussi mettre la main dans la pâte en formant les jeunes dans le domaine purement agricole et industriel, a indiqué Dubangar Apollinaire, chargé de relations extérieures de l'école des métiers des agricoles au Tchad, une initiative privée.
Tant qu'on n'utilise pas la science à notre profit, on ne pourra pas. Moi, par exemple, je suis ingénieur mécanicien. Je n'ai jamais été exploité. Je connais, par exemple, Dr Walendo. Il est docteur en mécanisation agricole, ingénieur rural. On n'a jamais utilisé au Tchad. C'est surprenant. Quand je vois la base de données des ministères de l'Agriculture, il est le seul.
Le Tchad dispose d'un atout favorable à l'agrobusiness, mais très peu exploité. Sur les 39 millions d'hectares de terres arables, seuls 3,4 millions sont cultivés selon le dernier plan de développement national. Les fermes agricoles du pays sont presque toutes à genoux. André Koduma Djingar Njamena pour VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, la rencontre Ishango a été lancée vendredi dernier à Goma, dans l'est du pays. Anciennement connu sous le nom de Festival international du film Salam Kivu, il s'agit d'une rencontre annuelle d'artistes, d'intellectuels et des communautés pour réinventer la place et les possibilités de l'art dans le monde contemporain. Un reportage de notre correspondant dans la région, Zanem Neti Zaidi.
Ishango est le nom d'un instrument mathématique datant du paléolithique et représentant le plus vieux savoir du monde. Le festival comprend une combinaison des projections des films, d'installations vidéo et photographiques, des performances, des conversations et des débats sur les efforts pour libérer l'Afrique de tous les poids du passé, notamment le passé colonial. Petna Ndaliko est l'initiateur du festival Ishango.
L'idée est de pouvoir conjuguer le monde à partir des Afriques. L'Afrique a conçu la vie. L'Afrique a vu cette vie-là développer. C'est le continent qui a plus d'outils en termes de survie sur cette terre.
Pour cette édition, trois concepts seront mis au devant, la décolonialité, l'écologie et l'indigène, qui sont mis en contexte dans le film qui est projeté en première, intitulé « Stop filming us, but listen ». Bernadette Vivouya a réalisé ce long métrage aux côtés de Kaoma Yatoairoa. Ce film permettra de réunir les savoirs locaux pour trouver des solutions aux problèmes locaux.
Parlant de, par exemple, de décolonialité, c'est comment est-ce qu'on se libère le mental. On a eu à vivre, on est passé par plusieurs années de colonisation et il y a les séquelles de la colonisation qui persistent dans nos sociétés. Mais comment est-ce que nous-mêmes, on a des connaissances qu'on peut mettre ensemble et comment on peut développer des mécanismes plus adaptés à notre situation en tant qu'Africain.
La soirée d'ouverture à laquelle ont assisté des centaines de festivaliers a été un moment d'apprentissage pour Jacques Kianga.
C'est en train de nous relater notre histoire africaine. Comment est-ce que le monde est en plus centré sur l'Afrique? Parce que quand on dit que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, c'est pas pour rien. Alors on est en train de nous montrer comment est-ce qu'on doit se sortir de cette stigmatisation qu'il y a par rapport à la colonisation. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train d'avancer. En éloignant de la colonisation, on devrait vraiment apprendre à comment se sortir de ces idées-là colonialistes.
La 17e édition du festival Ishango, qui va connaître la projection des 25 films, est organisé par Yolé Africa, un centre éducatif qui encourage l'innovation sociale à travers l'art. Son programme d'études met l'accent sur la créativité critique et donne aux jeunes le moyen d'aborder les problèmes sociaux et écologiques urgents auxquels sont confrontées les communautés de la région du Nord Kivu. Zanem Netizaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
Fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedou.